Vous êtes sur RTL.
Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau numéro de l'heure du crime, votre rendez-vous de début de soirée sur RTL où nous arpentons le monde des faits divers tellement riche en surprises et en coups de théâtre. Ce soir sur RTL, on va aller aux frontières de l'art et de la chronique judiciaire avec ce qu'on pourrait appeler le nouveau mystère Picasso. Affaire qui depuis 9 ans alimente les rumeurs les plus folles et mobilise la justice. L'histoire de 271 œuvres originales du plus grand artiste du XXe siècle, sorti comme par enchantement d'un garage de la Côte d'Azur. Un trésor à 60 millions d'euros. Un don des Picasso qui va aussitôt affirmer un couple de retraités anonymes, les époux Le Guénec. Pierre Le Guénec était l'ancien électricien des Picasso, devenu homme à tout faire dans la villa de Mougins. Il aurait reçu ses créations inédites en cadeau pour service rendu. Il va y avoir pas moins de 3 procès pour déterminer à qui appartiennent ces œuvres et surtout savoir d'où elles viennent. Le mardi 19 novembre, la cour d'appel de Lyon a enfin tranché dans cette saga judiciaire dans laquelle même la plus haute juridiction française, la cour de cassation, a été amenée à se prononcer. Ce 19 novembre, la cour d'appel a confirmé les précédents jugements, la condamnation à 2 ans de prison avec sursis de Pierre Le Guénec, 80 ans, et de son épouse Danielle, 76 ans, pour le recel de 271 œuvres de Pablo Picasso. La justice n'a pas cru au cadeau. Point final donc à cette affaire, sauf que cette affaire justement a sans doute soulevé plus de questions que de réponses. Aujourd'hui encore, malgré leur condamnation, les Le Guénec continuent à nier tout vol, dissimulation ou recel de ces esquisses et dessins datés de 1900 à 1932. Si la justice n'a pas cru le couple Le Guénec, elle n'a pas non plus établi le vol. Alors, d'où vient ce trésor qui dormait dans un garage? Pourquoi a-t-il fait refaire surface? D'autres personnages se cachent-ils derrière cette affaire qui lève aussi le voile sur les dernières années de Pablo Picasso, entre ombre et lumière. Picasso, les secrets d'un trésor oublié. À tout de suite dans l'heure du crime.
Christine Haas. 20h, 21h.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
On se retrouve dans l'heure du crime où l'on parle ce soir d'une histoire que la justice vient de trancher mais qui alimente encore bien des interrogations. 271 œuvres inédites de Pablo Picasso, une fortune qui dormait depuis 40 ans dans le garage d'une maison de la Côte d'Azur. Ce garage, à Moinsarteau, le garage de Pierre Le Guénec. Et c'est Pierre Le Guénec qui, par une belle journée de septembre 2010, traîne derrière lui une valise à roulettes. Il a pris le train jusqu'à Paris pour y rencontrer Claude Ruiz Picasso, le fils de l'artiste. Les deux hommes ne se connaissent pas, mais se sont peut-être croisés. Pierre Le Guénec était l'un des employés de la Villa Picasso à Mougins, l'électricien de la maison. Pierre Le Guénec a ce jour-là une idée en tête. Faire expertiser le contenu de sa valise à roulettes. 271 œuvres du peintre qu'il possède depuis des lustres. Il a écrit 4 fois à la Picasso Foundation, l'organisme qui gère l'œuvre, en détaillant précisément ce qu'il détient. La fondation était pour le moins incrédule en lisant ses courriers, mais quand Pierre Le Guénec ouvre sa fameuse valise, Claude Ruiz Picasso et les experts n'en croient pas leurs yeux. Stupéfaction, des gouaches, des lithographies, une aquarelle période bleue, 9 collages cubistes, des carnets d'études. Il y a même un portrait de Olga, la première femme de Pablo Picasso. Pierre Le Guénec explique que c'est le couple Picasso qui lui a donné tout ça et confirme ce cadeau à Julien Dumont sur RTL.
Le maître et madame ont fait un don. Ils m'ont donné ça comme ils m'auraient donné autre chose. J'ai travaillé pour eux en 70 jusqu'à son décès en 73. Et puis après, j'ai continué pour madame. Ce ne sont pas des tableaux parce qu'il m'aurait fallu un camion. Il y a quelques dessins et des petits morceaux d'esquisses. Enfin, voilà, c'est tout.
Pourquoi avoir approché la Picasso Administration récemment?
Parce que j'ai subi des opérations assez importantes. Je me suis posé la petite question, mes enfants, comment font-ils? S'ils sortaient faire comme ça, on va dire, mais d'où vous sortez ça? Que là, je peux m'expliquer.
Mais vous avez ressenti que ça pouvait avoir de la valeur?
Aucune idée.
Pour Claude Ruiz Picasso, ses œuvres, même si elles ne sont pas signées, sont authentiques. Elles ont leur place dans un musée, mais en aucun cas, elles n'ont pu être données à l'artisan électricien. Trop nombreuses, trop personnelles pour certaines, et pas dans les habitudes de Pablo Picasso. Le 23 septembre 2010, il porte plainte pour vol et recel. Un mois plus tard, Pierre Le Guénec et son épouse seront placés en garde à vue. Maître Jean-Jacques Neuer, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous défendez Claude Picasso, Paloma et Marina, pardon, et la Picasso Administration. À vos côtés, votre confrère, maître Olivier Debac, bonsoir, avocat de Maya Ruiz Picasso, fille du peintre, et puis Julien Fautra, journaliste au service reportage chez nous à RTL. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Maître Neuer, première question pour vous. Pourquoi vos clients décident-ils aussi vite de déposer plainte contre monsieur Le Guénec ?
Parce qu'il est évident que c'est un recel de vol. C'est une évidence. Picasso, bien entendu, a donné des œuvres. Ça lui est arrivé. À chaque fois qu'il donnait des œuvres, à chaque fois qu'il vendait des œuvres, ses œuvres étaient signées. C'était même, si vous voulez, sa garantie contre le vol. Parce que Picasso, évidemment, de son vivant, a été un peintre extrêmement célèbre. Et c'était son assurance contre le vol de signer les tableaux ou les dessins qu'il donnait. Alors, bien évidemment, à son décès, il y avait un certain nombre d'œuvres, beaucoup d'œuvres, puisqu'il a fallu pratiquement 10 ans pour les inventorier, qui n'étaient pas signées par définition, puisqu'il ne les avait ni données ni vendues. Mais ces œuvres, elles ont été inventoriées. Or, les œuvres que Le Guénec possédait n'étaient ni signées ni inventoriées.
Et j'ajoute à cela qu'il y avait des objets quasiment très personnels, notamment des carnets, c'est ça ?
Alors, hein, non seulement cela, mais si vous voulez, voyez, Picasso a 19 ans. Et il est extrêmement malheureux parce que son ami Casagemas s'est suicidé par dépit amoureux. Il peint une aquarelle magnifique en 1901 qui va garder jusqu'en 1973. Donc toute sa vie. Anne Baldassari, présidente du musée Picasso, dira « Nous aimerions avoir des œuvres comme celle-là. » Et il est censé l'avoir donné à la fin de sa vie à Monsieur Le Guénec. Lorsque vous avez un premier amour et que vous avez la photographie de votre premier amour, c'est le portrait de Fernand d'Olivier. Vous le gardez toute votre vie, c'est ce qu'a fait Picasso. Et il est censé l'avoir donné à Monsieur Le Guénec.
Donc ça, c'est pas possible selon vous, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Alors évidemment, la France entière va se passionner pour cette guerre judiciaire qui ne fait que commencer et cette découverte extraordinaire. Julien Fautra, à l'époque, vous allez sur place chez les Le Guénec. Alors décrivez-nous ce lieu où dormaient les fameux Picasso, cet incroyable garage.
Ben écoutez, on est à Montsartou. Montsartou, on est à quelques kilomètres au nord de Cannes. C'est une petite ville assez tranquille. On arrive dans un pavillon, une zone pavillonnaire, comme il y en a beaucoup, des rues avec des pavillons en enfilade, un petit garage, petite maison, le salon avec un papier peint des années 60. Et puis un peu sur la droite, il y a un garage en parpaing, comme vous en avez vu mille des garages comme ça. Et Monsieur Le Guénec me dit, eh ben écoutez, les œuvres, 60 millions d'euros, 271 œuvres de Picasso, bah, elles étaient posées là. Alors elles ont été un temps dans la chaufferie, dans mon souvenir, je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour conserver des œuvres. Et puis dans ce garage, alors c'est un garage en parpaing, il y a quelques outils, vous savez, c'est un endroit où on peut garer la voiture, où il y a des petites choses qui traînent. Voilà, elles étaient conservées là. Il m'a dit, juste à cet endroit-là, on n'est pas dans les bas-fonds de New York dans les années 70, on n'est pas à Atlantic City sous la Prohibition. On est dans un petit pavillon de Montsartou, une ville comme il y en a beaucoup sur la Côte d'Azur.
C'est très important ce que vous dites, Maître Debac. On dit que les œuvres sont parfaitement conservées, et pourtant elles ont dormi dans ce garage en permanence.
Elles sont retrouvées dans un état impeccable. Rigoureusement inventorié par Pierre Le Guénec, avec une liste des œuvres faites quasiment par un scientifique.
Donc
mais
pas vraiment quelque chose qui a dormi dans un garage, en tout cas pendant des années.
Bah, c'est pas très réaliste qu'un électricien soit capable de faire un inventaire de conservateur de musée.
Alors, Pablo Picasso et sa dernière épouse ne sont plus là, évidemment, pour témoigner de la bonne foi des Le Guénec, bonne foi à laquelle ne croient pas les héritiers du peintre. Un autre scénario va se dessiner. À tout de suite, dans l'heure du crime.
20h-21h,
l'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard, sur RTL. Venez découvrir...
Fiat.
L'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
Et ce soir, nous enquêtons sur le nouveau mystère Picasso, 271 œuvres qui dormaient dans un garage, qui auraient été offertes par le peintre à un de ses anciens employés, l'électricien Pierre Le Guénec. Version qui n'a pas convaincu les héritiers de Pablo Picasso, ils ont porté plainte. Le carton au trésor a été placé sous main de justice. Un mois après le dépôt de plainte, Pierre et Daniel Le Guénec sont donc placés en garde à vue. Une vingtaine d'heures. Leurs explications sont jugées embrouillées, trop floues, pour que les enquêteurs aient une idée précise de la provenance du fameux carton. Le vol est prescrit, mais le recel non. Le juge les met donc en examen. Pour l'instant, Pierre Le Guénec s'en tient à sa version initiale. C'est le maître en personne, Pablo Picasso, qui lui a fait ce cadeau. En 1971 ou 1972, il ne sait plus bien, dans sa maison-atelier de Mougins, le mât Notre-Dame de Vie. Sauf qu'au procès, mars 2015 à Grasse, les juges ne croient pas à cette histoire. 2 ans de prison avec sursis. Vous étiez à ce procès, Julien Fautra. Que disent les Le Guénec à l'annonce du jugement?
Ils sont perdus, les Le Guénec, à l'annonce du jugement. On sent qu'ils se disent qu'à ce moment-là, tout est terminé. Qu'ils sont que leur espérance, je ne sais pas quelle était leur espérance exactement, peut-être avoir des œuvres, peut-être avoir récupéré un pactole. En tout cas, à ce moment-là, tout s'effondre. Et puis on les imagine, lui, dans sa chemise un peu trop grande, un chandail marron, rentré chez eux dans ce pavillon. Là, elle est plus fière, elle se tient plus droite, elle est un peu plus dure. Là, ils se disent...
Mais en tout cas, il y a une désillusion.
Voilà, une désillusion.
Il y a un écroulement.
Un écroulement, exactement.
C'est bien ça. Maître Neuillère, quel souvenir avez-vous de ce couple qui est à la barre ce jour-là, qui vient demander son dû, si je puis dire?
Vous savez, on a, dans cette affaire-là, il faut le comprendre, positionné ce dossier sur la lutte des classes. Et on a installé cette idée que la puissante succession Picasso s'acharnait contre un malheureux couple de retraités, ce qui est absurde. Je vais essayer de vous résumer en quelques secondes...
Le pot de fer, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Mais je vais essayer de vous résumer en quelques secondes 10 ans de procédure. C'est simple à comprendre, cette affaire. Si vous avez 271 œuvres de Picasso et que vous voulez les vendre sur le marché international, il faut que vous puissiez raconter une histoire. Si vous allez voir la succession Picasso en expliquant que ses œuvres sont tombées du plafond, que vous les avez trouvées à la brocante, il y a forte chance pour qu'on ne vous croie pas.
Ça ne va pas marcher.
Ça ne va pas marcher. Le Guénec n'a jamais eu ses œuvres entre les mains. C'est très facile à comprendre. Je vais vous donner un argument. Je pourrais vous en donner 100. Je vous en donne un. Il gagne 1200 euros par mois. Ça vaut une fortune, vous l'avez rappelé. En 40 ans, il n'a pas vendu un dessin. Oui. Les gens qui avaient ses œuvres, ce ne sont pas des gens riches, ce sont des gens très, très, très riches et très, très, très malhonnêtes, qui étaient d'ailleurs intervenus 20 ans plus tôt dans une autre affaire similaire.
On va en reparler.
Et ils ont recruté Le Guénec, qui avait l'avantage d'avoir travaillé pour Picasso. Picasso me les a donnés. Allez prouver le contraire. Personne ne nous donnait une chance au départ. Et vous me demandez le souvenir que j'ai gardé de cette audience. Il y a eu un point de bascule dans cette audience. Et vous étiez là. Le point de bascule, c'est que, comme on le rappelait tout à l'heure, les Le Guénec, Pierre Le Guénec, avait établi une liste qui était d'un niveau non pas professionnel, mais académique.
C'est ça, oui.
Académique.
Une liste d'experts.
D'experts, mais plus que d'experts, académiques, c'est-à-dire d'historiens de l'art. Et depuis des années, le juge d'instruction lui demandait « Mais enfin, c'est pas vous qui avez fait cette liste, c'est impossible, voyons !» Et il dit « Ah mais si, madame, c'est moi, je suis minutieux !» Et quand je l'ai interrogé à la barre, la question que je lui ai posée était un peu différente. Je lui ai dit « Monsieur Le Guénec, quelle est l'œuvre de Picasso la plus célèbre du MoMA ?» Et il me regarde, il me dit le MoMA, il ne savait pas ce que c'était. Et le président sursaute. C'était les demoiselles d'Avignon, évidemment. Je dis, très bien, c'est normal, vous ne connaissez rien à l'art. Maintenant, vous m'expliquez comment vous arrivez à tracer un parallèle entre ce petit croquis que j'avais choisi et l'arlequin du MoMA. Ne me dites pas que vous l'avez recopié sur un livre. Ce sont des inédits, c'est-à-dire que ça n'a été édité nulle part et vous n'avez pas pu le recopier. Donc, il y a des gens derrière.
Pierre Le Guénec et son épouse Danielle sont donc montrés du doigt. Voleurs, receleurs, dans leur petite maison de Moinsartou, leur mémoire va alors se faire plus précise. Ce ne serait plus le maître qui a fait ce cadeau, mais son épouse Jacqueline, pour le remercier de sa confiance et de sa discrétion. Pierre Le Guénec, mandaté pour acheter des bouteilles d'oxygène pour Picasso, qui a de plus en plus de mal à respirer, mais dont personne ne doit connaître l'état de santé. Jacqueline prêtera même plus de 500 000 francs au couple pour qu'il achète une licence de taxi. Puis, remerciement ultime, ce carton que tend un jour Jacqueline Picasso à Pierre Le Guénec, comme il le raconte avec son épouse Danielle à Nicolas Jacquard du journal Le Parisien, aujourd'hui en France.
Un soir, en partant du travail que je faisais chez madame et monsieur, madame m'a appelé, m'a arrêté dans le couloir, m'a dit « Ceci est pour vous, voilà, au revoir ». J'ai pris ce carton et je suis parti. Elle me s'est ramené ici, je l'ai regardé, nous l'avons regardé, et après, je les ai emmenés dans le garage. Je les ai stockés. C'est resté 30 ans, 40 ans. C'est un cadeau, c'est des questions argent, ou ça m'a jamais effleuré la mémoire, ça, jamais.
C'est un cadeau. Puis, on n'en a jamais eu besoin de vendre quelque chose pour vivre. Hein. On a toujours vécu gentiment.
Maître Olivier Debac, à quoi ressemble donc ce fameux carton et que contient-il vraiment ?
Alors déjà, est-ce que c'est un carton ou est-ce que c'est un sac en plastique ?
Il y a eu les deux versions.
Les versions divergent. Donc je n'ai pas vu ce carton, je n'ai pas vu ce sac en plastique. On a aussi dit que les œuvres étaient arrivées en une seule fois puis en plusieurs fois. Donc on ne saura pas. Tout ce qu'on peut constater, c'est qu'au fil du temps, au fil des instances, les versions divergent sans arrêt. Et ça, pour moi, c'est la signature d'un recel, parce que on essaie une première version en première instance, elle passe pas. On en invente une autre en appel avec Jacqueline. On n'arrive même pas à se mettre d'accord avec la version de l'avocat et celle qui est écrite par les Le Guénec. Le couple n'est pas d'accord l'un avec l'autre. Donc, aucune de ces versions n'est crédible. Et l'arrêt de Lyon décortique tout ça de manière remarquable et souligne à quel point ces mensonges arrivent à point nommé, et on appelle toujours des morts. Donc on appelle Jacqueline, on appelle Pablo Picasso, on attend que Jacqueline soit décédée pour apparaître, on attend que les époux Brénu, les cousins voleurs, soient morts pour tout d'un coup révéler les œuvres. Donc tout n'est que mensonge et opportunisme.
Première manche judiciaire perdue donc pour les époux Le Guénec qui sont à l'occasion de ce grand déballage rattrapés par une vieille histoire d'autres tableaux qui auraient été offerts par Picasso. Curieux, le bénéficiaire n'était autre que le propre cousin de Pierre Le Guénec. À suivre dans l'heure du crime.
Jusqu'à 21h sur RTL.
Jean-Alphonse Richard.
L'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL.
Une heure du crime consacrée ce soir à un cadeau empoisonné. Celui qu'aurait fait Pablo Picasso ou Jacqueline Picasso à leur électricien Pierre Le Guénec dans les années 70. Un cadeau auquel la justice ne croit pas. 271 œuvres pour lesquelles Pierre Le Guénec et son épouse Danielle sont condamnés pour recel en mars 2015. Lors de l'enquête, les héritiers Picasso qui ont porté plainte se sont interrogés sur la provenance possible de ces pastels et dessins. Il faut dire que cet ensemble d'œuvres inconnues, sorties comme par miracle du fond obscur d'un garage, agitent les imaginations. En premier lieu, Claude Ruiz Picasso, fils du peintre, et son assistante qui, les premiers, ont vu les œuvres.
Et la première réaction, c'est effectivement une grande stupéfaction et aussi une grande émotion. Parce que quand Claude Picasso ouvre cette petite valise et qu'il commence à sortir chacun des dessins, on se fait des regards par en dessous en disant, mais avec les yeux grands ouverts, en disant, mais c'est pas possible, on rêve.
Mais d'où vient cet inestimable trésor ? Apparaît alors dans le paysage un curieux et extravagant personnage. Maurice Brenu, dit Nounours, décédé en 1991 et ancien chauffeur de Picasso. Si Brenu entre en scène, c'est qu'avec Pierre Le Guénec, ils sont cousins. Et surtout que dans sa maison de Sérignac, dans le Lot, Maurice Brenu, dit Nounours, possédait dans les années 80 une fabuleuse collection de toiles de Picasso, jamais répertoriée. Là aussi, l'ex-chauffeur affirmait qu'il s'agissait de cadeaux. Au moins 200 œuvres, tableaux, dessins, céramiques, un authentique musée privé, ouvert d'ailleurs à ses amis. Personne ne saura jamais si la fabuleuse collection de Maurice Brenu était bien constituée de cadeaux, de dons de l'artiste, ou si plus brutalement, celle-ci était le fruit de vols discrets répétés. Les œuvres détenues par le chauffeur seront exposées en 1989 dans la galerie d'un marchand de Genève, puis auraient été vendues à des collectionneurs. En 1991, 6 mois après avoir encaissé une partie de l'argent de la vente, Maurice Brenu, dit Nounours, mourait dans son lit sans avoir donné d'autre explication que celle du cadeau. Maître Neher, étonnante histoire que celle de ce Maurice Brenu qui surgit à la faveur du dossier Le Guénec, son cousin, on le rappelle.
C'est très amusant en effet parce que cette affaire éclate, elle fait le tour du monde immédiatement. C'est une affaire emblématique, une des plus belles affaires de judiciaire d'art qui ait jamais existé. Et je reçois un appel téléphonique de l'avocat d'un généalogiste qui me dit « Écoutez, voilà, on vient d'apprendre cette stupéfiante histoire, Le Guénec, incroyable, écoutez, on doit vous dire quelque chose. Ben, Le Guénec, on le connaît très bien. » C'est le cousin de Brenu. Mmh. Et Brenu est déjà connu parce qu'il a une collection suspecte que l'on appelle la collection secrète. Et depuis des années, Brenu, les marchands, viennent nous dire « mais c'est un cadeau de Picasso ». À l'époque, on est à la fin des années 80, l'affaire fait grand bruit déjà, il y a des tensions... Mais elle passe. Et elle se termine par une vente prestigieuse chez Christie's à New York.
Aux enchères, donc.
Aux enchères. Voilà. Triomphe. Et là, évidemment, il y a une enquête qui s'ouvre sur Brenu. Et on va voir ce qui se cache derrière le rideau, derrière le marché de l'art. On entre dans le cœur du marché de l'art, dans les entrailles du marché de l'art. Et on voit comme ce film Rashomon, où... La même scène est filmée plusieurs fois. On voit des choses incroyables. C'est-à-dire que vous avez Brenu qui est là, ivre de son forfait, en train de contrefaire la signature de Picasso sur des centaines et des centaines et des centaines de dessins. Mmh. Et il doit les vendre, mais il ne sait pas comment faire. Parce que s'il va voir des gens, on va lui dire « mais attention, c'est volé ». Alors vous savez... Là, vous avez quelque chose qui est complètement romanesque. Parce qu'il s'adresse au mari de sa nièce, qui vit avec lui. Il lui dit, t'as des relations, toi. T'as des relations. Tu es aux puces. Et le mari de la nièce contacte un brocanteur des puces. Et de fil en aiguille, ses œuvres vont passer dans le marché international pour se terminer par une vente prestigieuse à New York.
Mais comment faites-vous le lien avec les Le Guénec dans
Parce
cette histoire ?
Parce que, je vous le dis, on nous le
mais,
dit.
Mais est-ce que vous avez la preuve de cette transmission de certaines œuvres à Le Guénec ?
Ah ben absolument pas. C'est pas Brenu, forcément, qui a donné les œuvres à Le Guénec. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que la provenance des œuvres, ce sont des œuvres volées Brenu, qui sont passés dans le circuit, qui sont allés chez des marchands et qui aujourd'hui reviennent...
Refont surface.
Exactement, avec quelqu'un qui a une histoire à raconter. Mmh. Voilà, c'est tout.
Une histoire, une mise en scène,
une
donc, selon vous.
Une mise en scène, avec un modus operandi dans l'affaire Le Guénec, qui est exactement le même que celui de l'affaire Brenu. C'est-à-dire qu'il arrive avec un petit croquis, en disant, voyez, Picasso effectivement me l'a donné, c'est signé, c'est dédicacé par Picasso, et il fait passer le train de marchandises de toutes les œuvres non signées et non dédicacées exactement comme Brenu l'avait fait 20 ans auparavant. Et il cache, bien évidemment, sa parenté avec Brenu.
Donc il y a une trace qui existe, effectivement, un lien qui existe là, qui selon vous est évident.
Ah ben, c'est évident, mais ça a été, comme vous le disiez très justement, ça a été décortiqué d'une manière extraordinairement minutieuse par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, et il est évident que ces œuvres Brennu étaient des œuvres volées. On a tous les enregistrements, les écoutes téléphoniques, toutes les preuves. C'était évidemment un trésor qui avait été volé par Brennu.
Et le trésor de Brennu, je me tourne vers vous, Maître Debac, ce trésor, il ressemble à celui des Le Guénec, c'est la même époque, on est dans la même création de Picasso.
Et ce qui est très amusant, c'est que Le Guénec raconte aux policiers qu'il a été recruté par les Picasso sur petite annonce. Et ensuite, quand il est découvert...
Pour devenir électricien,
voilà,
c'est ça.
Il raconte, j'ai été recruté sur petite annonce. Et il dit pas aux policiers son lien familial avec Brennu. Mmh. Et ce lien familial, il est découvert après, et à ce moment-là, deuxième audition, il revient et dit « Ah oui, effectivement, j'ai peut-être été recruté par mon cousin, je me souviens plus, etc. » Donc, non seulement il y a un lien, mais en plus, il est dissimulé, donc c'est extrêmement suspect. Et ensuite, vous avez une litanie d'écoutes téléphoniques, des employés de maison des Brennu, des neveux, etc., etc., qui disent clairement, ah zut, ça chauffe, on a été interrogé par la police, bon, je pense qu'il y a recel, mais heureusement, c'est prescrit, parce que le miracle pour la filière Brennu, c'est que Monsieur Brennu, Madame Brennu sont morts. Donc ça a des conséquences juridiques assez simples, on peut plus les poursuivre, plus d'action contre les Brennu, et les œuvres qu'on connaît comme venant de leur succession ont été vendues. Donc ça fait courir la prescription sur ces œuvres-là, mais ça concerne pas les œuvres des Le Guénec, mais il est possible qu'elles aient la même provenance.
Alors vous disiez tout à l'heure, Maître, qu'il y avait une énorme vente aux enchères. Est-ce qu'on sait ce qu'elles sont devenues, ces œuvres, aujourd'hui? Elles sont chez des collectionneurs
elles
privés?
Elles sont chez des collectionneurs, elles sont dans le marché.
C'est ça. Donc elles sont impossibles de toute façon à récupérer pour la Fondation Picasso. Il n'y a pas eu d'action entreprise.
C'est intéressant finalement votre question, parce que qu'est-ce que veut la Fondation Picasso, comme vous dites? Elle veut d'abord la vérité, voyez. C'est-à-dire que il y a dans cette affaire-là un enjeu de vérité et un enjeu de respect aussi que l'on doit porter à cette succession. La façon de prendre les gens d'une manière générale, la succession Picasso, avec une telle désinvolture, en faisant croire quelque chose de totalement aberrant et énorme, c'est un manque de respect vis-à-vis de la succession Picasso. Il était nécessaire, dans cette affaire-là, d'abord d'établir la vérité.
L'enquête judiciaire a donc fait quelques détours, puis revient à son point de départ, le garage de Moinsartou, celui des époux Le Guénec, qui continuent à plaider leur bonne foi. Ils ont perdu en première instance, le procès d'appel arrive, et les surprises vont se multiplier. On se retrouve tout de suite dans l'heure du crime.
L'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard.
20h-21h sur RTL.
Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime sur RTL.
L'heure du crime où ce soir l'acteur principal serait presque Pablo Picasso en personne. À moins que ce ne soit son ancien électricien, Pierre Le Guénec, celui qui officiait dans la villa atelier de Mougins, à qui le maître ou sa dernière épouse Jacqueline aurait donné 271 œuvres originales pour services rendus. Les héritiers accusent Le Guénec et sa femme Danielle de vol. Ils ont été condamnés en correctionnel à Grasse, mais n'ont pas dit leur dernier mot. Coup de théâtre en cette année 2016 lors du procès d'appel à Aix-en-Provence. Pierre Le Guénec avait tout d'abord dit que Pablo Picasso lui-même lui avait remis ce carton, puis raconté que c'était Jacqueline qui avait fait ce cadeau cette fois. Il précise, il va plus loin. Oui, c'est bien Jacqueline, mais cette donation s'est déroulée après la mort de l'artiste. Jacqueline Picasso aurait confié en fait plusieurs sacs remplis d'œuvres du peintre pour que les Le Guénec les placent à l'abri chez eux. Quelques semaines, quelques mois plus tard, elle lui aurait demandé de restituer l'ensemble, sauf un sac qu'elle aurait laissé à Pierre Le Guénec en lui disant « Gardez-le, c'est pour vous ». L'explication des Le Guénec et de leur nouvel avocat qui vient d'entrer dans le dossier, maître Éric Dupont-Moretti, est la suivante. Jacqueline Picasso voulait mettre à l'abri des œuvres alors qu'à Mougins, une guerre familiale faisait rage pour se partager l'héritage du plus grand peintre du XXe siècle. Maître Neuer, vous défendez les intérêts de l'un des héritiers, Claude Ruiz Picasso. Que pensez-vous de cette explication de Pierre Le Guénec, la guerre familiale, qui paraît tout à fait plausible, pourquoi pas ?
Pourquoi pas, à part que c'est faux, et que ça va être démontré en quelques minutes, en réalité. Parce que là aussi, il y a une audience à la cour d'appel d'Aix, et la première question que je pose à Monsieur Le Guénec, c'est « Jacqueline vous a donc remis un sac en rétribution de vos services, et vous l'avez rendu quand, monsieur, ce sac ?» Et il me répond « Oh, je sais plus, 3 mois, 6 mois, 2 ans. » Je lui dis « C'est très bien, nous sommes de très bonne humeur, on va dire 2 ans. » À part que les inventaires ont duré jusqu'à la fin des années 1980. Évidemment, c'était impossible. Elles ont duré 10 ans.
Mais voilà. On peut imaginer que Pierre Le Guénec n'est pas tout à fait sa mémoire, qu'il s'en mêle un peu les pinceaux. Julien Fautra, vous l'aviez rencontré, c'est un homme qui est un peu distrait, comme
un peu fébrile. C'est plutôt qui semble parfois un peu perdu, sans vraiment savoir ce qui se passe autour de lui.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de fantaisie comme ça, dans ce qu'il raconte, etc. Et on ne sait pas très bien.
Et puis parfois on se demande s'il n'est pas malade, tellement il est faible et tellement les explications vont dans des sens différents.
Maître Debecq, vous allez dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous pensez que Pierre Le Guénec dit un peu n'importe quoi, s'en mêle les pinceaux, distribue des versions différentes à chaque fois.
Ce qui est sûr, c'est qu'il change de version de manière assez radicale. D'une audience à l'autre, d'un interrogatoire au suivant, dire qu'il est fatigué, c'est un monsieur qui a 75 puis 80 ans tout au cours de l'audience. Ce que je peux vous dire, moi, c'est pour l'avoir interrogé, c'est que je trouve qu'il est super bien briefé. Il arrive à rassurer les magistrats en répondant à des questions, sans rien dire de précis, en évitant les réponses difficiles, une vraie savonnette. Donc ce monsieur, il est préparé par son avocat pour avoir l'air de quelqu'un d'extrêmement modeste, qui subit une espèce d'avalanche judiciaire, mais en réalité, pour ne rien dire. Mais cette version de Jacqueline, elle est complètement irréaliste. Et ce que je trouve le plus ridicule, c'est que la version de monsieur Le Guénec à l'audience, dans une lettre qu'il écrit, et les conclusions de son avocat divergent. Donc, quand on a le temps de se préparer, qu'on a un conseil, on a une version cohérente qui tient la route. Mais là, c'est même pas le cas. Donc non, il est préparé, il joue un rôle, il essaie de le jouer le mieux possible, mais ça marche pas, en fait.
Maître Neuer, votre confrère dit Pierre Le Guénec a été briefé. C'est votre sentiment aussi, préparé ?
Évidemment, il était tout à fait évident qu'il n'y a pas le moindre élément de sincérité dans cette affaire, qui n'a absolument ni queue ni tête. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de cette liste. Alors, là aussi, comme le mensonge avait été complètement éventé en première instance, il faut bien maintenant expliquer cette liste. Et on invente une explication que nous avions vue venir et que nous avions prévue, qui était de dire, bah oui, c'est mon beau-frère qui a fait cette liste parce qu'il c'était un petit galeriste à Cannes, c'est lui qui m'a aidé, j'ai pas voulu l'impliquer, c'est pour ça que, je l'ai pas dit en première instance, à part que nous avions regardé ça et nous l'avions prévenu, et nous avions prévu, et nous avions vu que le beau-frère tenait un journal et qu'il voit les, non pas les œuvres, mais les photos des œuvres pour la première fois, 2 mois après que les premières lettres ont été envoyées. Impossible.
La défense impossible selon vous, oui bien sûr.
Pas selon moi, factuellement impossible, puisqu'il dit dans son journal qu'il voit les photos 2 mois après la première lettre. Donc c'est impossible, donc c'est pas lui qui l'a fait.
Un petit mot quand même, la défense de Le Guenec va dire que finalement la Fondation Picasso a sauté sur ce trésor, et qu'il fallait qu'elle s'en empare de toute manière.
Et que les
Le Guenec revendiquaient ce trésor, qu'ils étaient en droit de le revendiquer puisqu'il leur avait été donné, mais que la Fondation, ayant vu la valeur de cet ensemble, ne pouvait que contester ce don.
Encore une fois, l'enjeu de ce dossier est un enjeu de vérité. Cette affaire rebondit sur la précédente affaire Brennu. C'est une affaire de trafic d'œuvres d'art volées. Nous avons derrière des marchands internationaux qui sont totalement cyniques et qui ont utilisé M. Le Guenec. La réalité de ce dossier n'est pas, s'il vous plaît, essayons d'être un tout petit peu réaliste. Vous ne pensez quand même pas que trois juridictions de fond ont reconnu les Le Guenec coupables de recel de vol parce qu'ils adorent les riches et qu'ils veulent donner raison aux pauvres.
Enfin, je vous pose la question.
Il faut, pas, faut quand même être un peu sérieux dans cette affaire. La réalité de ce dossier, c'est que nous avons affaire à un trafic d'art international, qu'il est évident que dans ce dossier, Le Guenec a été utilisé, et comme je vous le disais, s'il y a un match, c'est pas entre les riches et les pauvres, mais entre les riches et les très riches et les très malhonnêtes.
Les époux Le Guenec, eux, espèrent de tout leur cœur que cette nouvelle ligne de défense va leur permettre d'obtenir gain de cause, de gagner ce procès d'appel. Ils le disent à Nicolas Jacquard du journal Le Parisien, Un jour en France.
Que notre vérité soit reconnue, quoi, que nous avons eu ce don par Jacqueline, que nous sommes confiants. Moi, je suis confiante en la justice.
Ben là, je comprends plus, hein. Je comprendrai pas. Tout de même, je vais les voir. C'est comme s'ils me prennent pour un voleur, et je vais les voir, ça me fait un peu stupide, on va dire, peut-être que je le suis, je sais pas.
Mais malgré ces implorations, Pierre et Daniel Le Guenec sont à nouveau condamnés en décembre 2016. La version Jacqueline Picasso guerre familiale n'a pas convaincu la cour. Peine confirmée, 2 ans avec sursis. Les époux sont accablés. On croit alors à la fin de l'histoire, mais on se trompe. Il y aura un troisième procès, car dit la justice, la cour de cassation, le vol n'est pas établi. Les Le Guenec disaient-ils donc vrai ? Réponse tout de suite dans l'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard.
L'heure du crime.
Jusqu'à 21h sur RTL.
Sur RTL.
L'heure du crime.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir, dans l'heure du crime, nous évoquons donc le mystère des 271 œuvres de Picasso sorties presque comme par magie d'un garage en 2010, propriété, du moins le croyait-il, du couple Le Guenec, Pierre Le Guenec, ancien électricien du maître, qui aurait reçu ses œuvres dans les années 70, des mains de la veuve du peintre Jacqueline Picasso en personne. Cadeau ou pas cadeau, cette affaire Picasso dure maintenant depuis presque 10 ans, et on se demande si elle aura un jour un point final. De condamnation pour recel pour les époux Le Guenec, puis en février 2018, la cour de cassation chamboule tout. Elle dit que dans son arrêt, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas démontré, je cite, que les œuvres provenaient d'un vol. Décidément, rien n'est simple dans cette affaire. S'il n'y a pas eu vol, l'accusation de recel reste-t-elle valable? Les juristes peuvent s'en donner à cœur joie. Le fait est qu'il y aura bel et bien un troisième procès qui s'ouvre cette fois à Lyon le 24 septembre dernier, en présence de Pierre et Daniel Le Guenec, désormais âgé de 80 et 76 ans, visiblement accablé par ce nouveau rendez-vous judiciaire. Maître Neuer, avocat du fils du peintre Claude Ruiz Picasso, qui a porté plainte contre les Le Guenec, vous étiez à ce procès. Les Le Guenec ont invoqué la valeur sentimentale du don, un pacte de silence qui les aurait liés à Jacqueline Picasso, pour justifier 40 ans de secret. Alors pourquoi ne pas les croire?
Pourquoi ne pas les croire? Mais parce qu'il y a...
Après tout, ils n'auraient pas eu envie de vendre ces œuvres qu'ils estimaient comme un cadeau sympathique et affectif.
Écoutez, quand vous avez un cadeau que vous estimez, généralement vous ne le cachait pas pendant 40 ans dans un garage, dans une armoire à fusils, toutes sortes de d'explications vaseuses qui nous ont été fournies. Expliquez un peu à tout le monde que ce cadeau, vous l'avez reçu, là il était caché, personne ne le savait. Donc tout ça, c'est une possession, pour reprendre des termes un peu juridiques, que l'on appelle clandestine. Mmh. Voilà. Et une possession clandestine exclut la bonne foi. C'est exactement en droit ce qui s'est produit dans ce dossier. Voilà.
Et à ce procès, maître, les Le Guenec racontent encore la même chose ? C'est-à-dire que c'est copie des procès précédents ?
Il y a eu un épisode sur lequel vous êtes passé qui est assez savoureux, je dois dire. C'est qu'à l'issue de l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence...
Mm-hmm. Le deuxième procès.
Deuxième procès, c'est ça. Comme je pense que nos adversaires avaient compris que le procès était perdu pour eux, ils ont produit une note en délibéré. Cette note en délibéré, extraordinaire, est une note qui aurait été établie par Le Guenec après l'audience, le premier procès, et avant le jugement du premier procès, où il reprend sa version des sacs poubelles que Jacqueline aurait donné, et en disant « J'ai menti au tribunal. Ceci est enregistré au rang des minutes d'un notaire. » Ce que je n'ai jamais vu nulle part, un officier ministériel qui enregistre la déclaration de quelqu'un qui dit « J'ai menti au tribunal. » Un peu étonnant. Ce qui n'empêche absolument pas, par la suite... Le Guenec, de revenir sur sa version initiale, de dire que c'est effectivement Picasso qui les lui a donnés, pour ensuite changer in fine de version. Et la cour d'appel de Lyon est saisie, cette fois, de l'ensemble du dossier, y compris de cet épisode complètement hallucinant, complètement stupéfiant, surréaliste en matière judiciaire, d'une note en délibéré où quelqu'un vient dire « J'ai menti à un tribunal et c'est enregistré au rang des minutes d'un notaire ».
Alors je précise, maître, qu'on avait évidemment invité ce soir maître Éric Dupont-Moretti, l'avocat des Le Guenec, mais qui n'était hélas pas disponible. Mais évidemment, l'antenne lui est ouverte quand il le souhaitera. Le 19 novembre, l'arrêt de la cour d'appel tombe. Et c'est à nouveau une condamnation à 2 ans de prison avec sursis qui est prononcée à l'encontre de Pierre et Daniel Le Guenec, absents à la lecture de ce jugement final. Et comme si l'histoire des cadeaux Picasso était sans fin, le fils d'un autre employé de la Villa Picasso, un gendarme devenu gardien, témoigne anonymement sur France 3 Alpes Côte d'Azur, affirme que son père avait lui aussi reçu des œuvres en cadeau, et il en fait la liste.
Une pochette de 12 dessins, des colotypes, il y en a 3, une lithographie de les Demoiselles d'Avignon, et une vraie lithographie, La femme au fauteuil numéro 3, datant de 1949 et représentant François Gillot, et une céramique. Ça n'a pas été volé, ça a été donné.
Voilà, ça a été donné, maître Neulière, je me tourne vers vous. Ça a été donné, l'histoire se répète.
Je ne connais absolument pas ce dossier qui intervient très curieusement le jour où on rend la décision de la cour d'appel de Lyon, comme c'est curieux.
Qui est un témoignage anonyme.
Est un témoignage anonyme de quelqu'un qui intervient juste à ce moment-là. C'est une espèce, évidemment, encore une coïncidence de plus dans ce dossier, donc une invraisemblance. Et bon, on va dire provisoirement, hein, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit, que c'est ce qu'on appelle une réplique, vous voyez, en matière sismique. C'est-à-dire, quand il y a un tremblement de terre, il y a encore quelques secousses derrière.
Maître Debac, la justice a donc fini par trancher. Que va devenir le fameux carton au 271 Picasso ?
Il faut dire un mot de l'arrêt, parce qu'on a critiqué l'arrêt d'Aix qui était soi-disant insuffisamment motivé selon la Cour de cassation. Là, on a un arrêt qui est vraiment un monument de rédaction. Tout y est, tous les détails.
Définitif.
On souligne à quel point les Le Guenec ont caché les œuvres, menti à leurs enfants, attendu que tout le monde soit mort pour révéler les choses. Donc on a une décision qui est ultra solide. Et elle ordonne la restitution à la famille.
Et donc ce carton va revenir
À l'indivision Picasso. Et les œuvres vont enfin pouvoir être vues, étudiées, et ce sont des trésors d'histoire de l'art. Il y a des choses extraordinaires, c'est très important de pouvoir les étudier. Vous avez des collages...
Oui, c'est cubistes. Historique, hein, c'est ça.
Il y a des collages cubistes rarissimes, il y a des œuvres intimes, familiales, un portrait d'Olga, on en a parlé, des dessins représentant Apollinaire, Max Jacob, donc c'est très très précieux. Je dirais pour l'histoire de l'art et pour les musées en général.
Maître,
c'est une bonne nouvelle.
Maître Neuer, est-ce que l'affaire est terminée? Ça y est, c'est fini, judiciairement?
Non, les Le Guenec ont formé un second pourvoi en cassation. Mais vous savez, on a dans cette affaire-là, depuis le départ, une défense acharnée. Nous avons eu... comme adversaire, 7 avocats, professeurs de droit, en comptant les avocats à la Cour de cassation, 10 ans de procédure et absolument tous les recours possibles et imaginables à des niveaux de sophistication invraisemblables qui ont été tentés par ce très modeste couple d'électriciens.
Voilà le mystère Picasso qui n'est donc peut-être pas terminé, nous le verrons. On suivra cette affaire évidemment sur RTL dans les semaines, les mois et peut-être les années qui viennent. Merci Maître Neuer, merci Maître Debac d'avoir répondu à l'invitation de l'heure du crime. Merci Julien Fautra également d'avoir été là. Et encore merci à Justine Vigneault, Amandine Lemaire qui ont préparé cette émission avec Marc Bisset à la réalisation.